des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Godoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. J'ai le bonheur d'avoir comme invité l'écrivaine et poète québécoise Danielle Fournier. Nous nous sommes rencontrés à Cotonou au Bénin en 2009 et nous ne nous sommes plus quittés. Plus tard, à Paris, le premier recueil qu'elle m'a offert s'appelait « Il n'y a rien d'intact dans ma chair ». Je l'ai tellement aimé ce titre que j'avais presque peur d'ouvrir le livre, de crainte de ne pas retrouver la sensation. J'avais bien évidemment tort. Pour dire que son rapport au monde est charnel, viscéral, qu'elle prend ce qui vient à elle à bras le corps et va vers le monde armé de ce qui lui échappe. Le rapport qui en ressort est violent, le langage est violent de non-dit, de mal-dit, de silence. Danielle Fournier s'interroge sur ce que d'écrire, questionne ce que le féminin, ce que d'être femme, interroge qui elle est, ce qui de son écriture est femme, pour donner corps au texte. Nous allons faire quelques lectures et parler de son dernier livre, « Celle qui ne donne pas son nom », paru ce mois de mars aux éditions Le Méac, et de ses derniers poèmes du livre qu'elle a écrit avec la merveilleuse poète et artiste québécoise Louise Marois, parler de son rapport au monde à travers l'écriture, de ses vies, ici et là-bas, à Paris, à Saint-Grégoire, au Québec où elle habite depuis quelques années, de son travail éditorial, de ce qu'est d'être enseignante, femme, mère et écrivaine, de ce qu'est le féminin, le tout dans deux entretiens qui seront diffusés ce mois de mars. Bonjour Danielle. Je vais commencer par lire la première page de ton livre, celle qui ne donne pas son nom.
Tu ne t'aimes pas. Tu ne connais pas ce roman de Nathalie Sarraute. D'ailleurs, tu ne sais pas lire. Enfin, ce n'est pas que tu ne le saches pas. Tu reconnais des mots dont le sens t'échappe. Cela ne t'intéresse pas de toute manière. Tu ne veux rien savoir. Tu es une gentille fille. Tu as été et es une bonne mère. Sera une exceptionnelle grand-mère. T'attribues à ses lois, ses propres codes, ses mots tronqués ou rallongés de lettres et de syllabes, et ses verdicts tranchants sur les autres. Oui, tu honores tes parents, chéris tes enfants, et peut-être vénères-tu Dieu. Ça, tu ne l'avoueras pas. Tu es bonne, tellement bonne que tu ne sais plus où tu es dans ta vie. Tu te consacres à tes parents, tes enfants et tes petits-enfants. Tu te désespères de n'avoir pas encore une importante descendance. Tu portes sur tes épaules l'histoire de tes aïeux et sur ton dos leur absence que tu déguises en occupations diverses. Tu es là pour eux, réponds présente de jour comme de nuit. Tu habites cette longue nuit onctueuse, la parcours de long en large dans une attente absurde. C'est ce qui t'anime. L'attente et l'espoir qu'il te voit. Néanmoins, tu n'aimes pas non plus ce que tu es devenu. Tu ne cherches pas à t'excuser. Pourquoi le feras-tu? Pourquoi voudrais-tu réprouver ta malveillance? Avec quel mot, puisque tu ne sais ni lire, ni écrire, ni parler? Fièrement, tu l'affirmes et attribues à cette ignorance une richesse inouïe. Tu peux laver ton plancher, faire ta vaisselle, nettoyer ta maison, laver tes vêtements, faire tes commissions, plier ton linge. Tu es fier de cette tâche qui te permet d'exister, car tu survis malgré toi. Heureuse de voir ton univers rangé, ta pelouse coupée ras, tes fleurs colorées, tes chaises neuves et ta piscine, ton chien, ton chat, ton tapis et tes rideaux. Tu reprends toujours le même homme sur le modèle de ton père, qui parle comme lui, et te traite comme il l'a fait. Tu as oublié. En toi, le mercure en feu. Tu ne jouis pas, ne désires que ce qui te ramène au familier. Rien ne dépasse dans ta vie. Tu as tout bien fait. Demeurent les cicatrices, celles que tu ne couvres plus, ta peau râpée. Tu fais semblant d'oublier, comme tu as oublié de jouir dans ton corps, dans notre corps. Parce que c'est comme ça. On ne se donne pas du plaisir impunément, et on n'en en prend pas non plus sans abandon, sans intimité. Pourquoi céder à l'autre? C'est dangereux, tu pourrais te le reprocher. Il y a des gestes dégoûtants. Tant de malveillance autour, tant de méchanceté qu'il faut rester sur ses gardes. Garder la tête droite, le sexe sec. Imaginez ce qui pourrait arriver. Surtout ne pas fuir le pire, le prévoir, ne rien donner. Qui aurait la témérité de t'approcher, de te parler avec des mots qui te dépossèdent? Ceux que tu as ne t'appartiennent pas. Ils viennent de loin, d'un autre siècle où les hommes cultivaient l'effroi, entretenaient l'épouvante avec une langue qui sentait le fer, la rouille et l'éclair. Cela te plaît. Cela t'anime, cette rage, cette rancune que tu portes comme un vêtement élégant, toi qui l'es si peu. Tu parles comme tu marches. Tu t'habilles comme tu marches. Et tu marches comme tu parles. Cela tourne en rond en toi. Jusqu'à l'implosion. D'ailleurs, tu ne parles pas. Ton silence est de la couleur des feuilles tombées à l'automne, foulées par les pieds des passants. Tu vocifères et cries dans la rue contre quelqu'un qui n'y est pas. Tu vis par procuration. Cela fait beaucoup, je le sais. Tu en as si lourd sur les épaules qu'écrasées, elles sont déboîtées, sorties de leur articulation comme toi, qui sors de ta maison en furie, ton corps en ébullition. On ne peut dire que tu te tais, même si tu ne parles pas. Te taire est au-delà de tes forces. Indubitablement hurlante, puisque, crois-tu, fulminée calme. Crois-tu? Tu vis de croyances multiples, de superstitions, de cristaux, de chimères ésotériques, de divinations, de cartomancie. Tu implores, toujours hurlante. Tu implores, toujours hurlante, les saints de l'univers, les monstres sacrés et tous ces diables qui t'accompagnent dans le brouillard. Tu ne sembles pas là, en carence de pronoms personnels. Qui es-tu?
Dans le titre de tes derniers récits, il y a une invariable, le mot « celle ». Celle qui ne craint pas la joie, celle qui marche sur la pointe des pieds, et maintenant celle qui ne donne pas son nom, celle. Pourquoi ne pas nommer?
Pourquoi ne pas nommer? En fait, je n'ai pas de raison principale. C'est pas réfléchi. Hein? C'est pas réfléchi au sens où j'ai pas une théorie sociologique, littéraire sur pourquoi j'ai entamé, disons, ce cycle, appelons ça comme ça, là, ce cycle de celle. Ça m'est venu, comme beaucoup de choses dans mon écriture, ça me vient comme ça. Et c'était une façon aussi de, justement, de ne pas nommer. C'était nommer celles qui étaient, celles au pluriel, là, celles qui sont et celles qui est, hein, celles qui est en même temps. C'était peut-être aussi une façon de faire un amalgame de ce qui est mon écriture, c'est-à-dire à la fois la réflexion sur la société, sur ce que je vois, sur ce que je ressens, sur ce que je pressens, et d'une certaine façon aussi la part autobiographique, parce que il me semble qu'on peut pas écrire en dehors de cette dimension qui est sa propre vie et son rapport au monde. Donc celle, c'était vraiment dans cette optique-là que ça s'est fait. D'autre part, il y avait aussi un projet qui était vaste, qui était vraiment un projet, disons, structuré. C'est que je voulais pour chaque celle, parce qu'il y a quand même un autre texte qui porte aussi le titre de celle, je voulais pour chaque texte travailler à partir d'un pronom personnel. Donc c'est pour ça que si on fait un peu le répertoire, dans le premier celle, il y a les un peu tous les pronoms, il y a le je, le tu, le nous. Dans le deuxième celle, il y a le vous, c'est-à-dire une femme qui s'adresse à un homme. Et dans le troisième texte, celui qui vient de paraître, celle qui ne donne pas son nom, il y a le tu, mais c'est un tu qui est ambigu, dans le sens que c'est parfois un je, c'est parfois un vous, c'est parfois un nous, Et il y a aussi quand même la narratrice qui est là. Donc c'est un peu ça, je pourrais pas vraiment développer d'une manière théorique ou disons, ça m'est venu comme ça. Je sais pas si ça répond à la question, mais peut-être pas non plus, mais ça m'est venu comme ça, comme beaucoup de choses me viennent comme ça.
Tu as devancé un peu mes questions, mais c'est pas grave, on va les reprendre. Dans le récit décliné en trois parties, celle qui marchait sur la pointe des pieds, tu parles de l'abandon, de la perte, tu parles d'Étienne. Dans le suivant, celle qui ne craint pas la joie, c'est une sorte d'écriture cathartique, une analyse d'une destruction annoncée, qui heureusement n'a pas été une. L'emprise à la sortie de l'emprise par les mots, par l'écriture. Celle qui n'a pas de nom parle de féminité, de langage, de l'impossibilité de dire, de la violence du non-dire. Donc tu disais, tu as entamé un cycle?
Oui, comme j'ai dit, mon projet c'était de faire donc tous les pronoms personnels. Mais encore une fois, je ne sais pas trop comment le dire et je ne sais pas si c'est comme ça pour les écrivains en général, mais je ne sais jamais ce que je vais écrire. Donc, quand j'ai commencé le premier texte, celle qui marchait sur la pointe des pieds, en fait, ce texte-là, le titre m'est venu justement de Louise Marois, hein, de ma grande amie Louise Marois, qui me racontait que quand elle était petite, puisqu'elle habitait, je ne sais plus si au deuxième ou au troisième étage d'une maison à Montréal. Et à Montréal, les maisons sont pas comme en France, sont pas très, très bien insonorisées. Donc, elle me racontait que sa mère leur disait toujours de marcher sur la pointe des pieds. Et moi, je disais à mes enfants, quand ils étaient jeunes, de marcher comme une souris. Donc, comme je vivais quand j'ai commencé à écrire ce texte-là, des choses très, très dures avec mon fils, en voulant parler de mon fils, c'est mon père qui est venu. Le rapport de mon père, comme j'ai déjà écrit dans un livre précédent, que ma famille était schizophrène. En fait, c'est plutôt une figure de style que la réalité. Mais comme on habitait tantôt à la campagne, tantôt à la ville, il fallait être bonne à l'école et en même temps être capable de s'occuper des vaches. Ça faisait comme une espèce de dichotomie dans notre vie. Et donc, c'est mon père qui est apparu dans mon texte. Et c'est surtout mon amour de ce lieu où j'ai passé de très, très nombreuses années et où je suis allée jusqu'à tout récemment. Et maintenant, comme je l'ai abandonné, enfin, je l'ai laissé, je l'ai légué à ma sœur, c'est très difficile pour moi d'y retourner à cause de tous ces souvenirs. Donc, ce texte-là s'est imposé à partir de la terre. De la terre, de mon fils qui était profondément urbain, qui était SDF, qui était toxicomane, et donc qui est le contraire, finalement, du travail de la terre. Donc, il y avait cette espèce de schizophrénie que je ressentais. Le deuxième texte, qui est sur ma mère et sur ma fille, j'ai déjà écrit dans un recueil de nouvelles un texte sur ma mère. Et le prétexte, c'était de passer une journée, enfin, c'était une soirée où je faisais c'est un peu ridicule, là, la prémisse, mais c'était une soirée où je faisais de la sauce tomate. Hein? Je fais de la sauce tomate à l'automne pour tout l'hiver. Donc, c'était le texte que j'ai publié. Et ce texte-là m'a hantée d'une certaine façon parce que j'avais l'impression que j'avais été injuste parce que j'ai une fille. Bon, ma fille, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très important dans ma vie. C'est quelqu'un que j'aime énormément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc, ça s'est présenté comme ça. Alors, il y a eu ma mère et il y a eu ma fille. Et le troisième texte, c'était un nous. Parce que il y avait le je, le tu, le elle. Et là, il y avait le nous. Mais c'est pas un nous de couple, comment je dirais. C'est un nous non identifié. Donc, ça pouvait être autant un nous politique, un nous urbain, un nous non urbain, donc quelqu'un d'un groupe de la. Mais c'était un groupe. Hein? Le nous, c'était un groupe. Donc, c'est un peu comme ça que ce livre-là s'est construit. Avec ces trois. Mais le projet, comme j'expliquais, le projet, c'était vraiment. C'est vraiment de faire tous les pronoms de conjugaison. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est quand même le projet.
On disait aussi que tout écrit est autobiographique, tu le disais tout à l'heure.
Ouais.
Et on dit qu'il est d'autant plus autobiographique qu'on essaie à ce qu'il ne le soit pas. Pour toi, l'autobiographie, elle est une source permanente ou...
J'ai toujours eu l'impression que ma vie n'est pas extraordinaire. Elle est comme toutes les autres vies. Que j'ai eu des histoires d'amour qui m'ont blessée ou que j'ai eu des histoires d'amour qui ont fonctionné pendant un temps. C'est plutôt l'enjeu du deuxième livre, celle qui ne craint pas la joie. Mais ce n'est pas, je dirais, c'est... Oui, c'est autobiographique, mais en même temps, ça ne l'est pas du tout. Parce que chacun des personnages que je crée, autant dans le premier livre qui sont des nouvelles, autant dans ce premier livre-là que dans le deuxième, que dans celui que je viens de faire paraître, c'est moi, mais c'est absolument pas moi. Je ne sais pas comment expliquer vraiment cette chose.
Il me semble que tu dis, Daniel, à un moment donné, j'avais noté une phrase que j'aimais. Elle choisit la fiction où elle veut vivre. Je crois que tu dis ça dans Celle qui marchait sur la pointe des pieds. Oui.
Ouais, peut-être que j'écris ça. Oui, je sais plus. Mais je sais plus. Mais j'écoute beaucoup les gens. Hein. J'écoute. On peut dire que je parle beaucoup, mais j'écoute aussi beaucoup et je m'inspire énormément de ce qu'on me raconte. C'est-à-dire que mon écriture est entièrement alimentée par ce que j'entends, par ce qu'on me raconte, par ce que je vois. Et évidemment, c'est là la part autobiographique. Comment ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens chez les autres, enfin bon, comment c'est filtré par le prisme qui est ma propre vie, qui est mon propre rapport au monde. Alors, autant chez les pervers narcissiques, je pense que toutes les femmes ont rencontré au moins une fois dans leur vie un pervers narcissique dont elles ont été amoureuses ou alors avec qui elles ont travaillé. Donc, c'était vraiment l'enjeu de ce texte-là. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce que quand le livre « Celle qui ne craint pas la joie » a été publié, quelque temps après, je l'ai offert à un des hommes qui m'a servi finalement de modèle et il m'a écrit en me disant que c'était pas du tout la réalité, qu'on n'avait pas vécu ça. Mais je trouvais ça un peu ridicule parce que justement, lui, il a pris mon livre au premier degré comme si c'était ma vie, comme si c'était notre vie, comme si c'était notre histoire. Mais c'était bien sûr ma vie, c'était bien sûr notre histoire, mais ce n'était pas que ça. C'était aussi la vie de plusieurs femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai bavardé, avec qui j'ai parlé, des femmes que j'ai entendues au café, dans le métro, à la radio, peu importe. Donc, c'est dans ce sens-là que mon écriture est autobiographique parce qu'elle est filtrée par ce que je sens, par ce que je vois, mais aussi par ce que j'imagine. Faut pas oublier la part de l'imagination, enfin, de la transformation du réel. La fiction me permettait de vivre, de faire vivre aussi les histoires.
Tu es venu à l'écriture par la poésie, puis le récit s'est imposé.
Ouais.
Je sais qu'il y a des récits qui ont été écrits au long des années, qu'ils ont eu besoin de temps pour prendre forme. Donc, à un moment donné, peut-être tu écrivais des poèmes et puis des récits en même temps. Tu as dit aussi, si le poème est une rupture, joue le rôle d'une cheville, d'une articulation, le récit serait un genou ou un pied aux os délicats et multiples. Est-ce que la poésie serait-elle une survivance, comme disait Paul Valéry, une survivance du vécu, de la réalité, et le récit une incursion dans la réalité des faits? Comment tu vois?
Tu sais, Fabiola, tu me poses des questions tellement compliquées que je n'ai pas de réponse, parce que tout est confus dans ma tête. Quand j'écris, je sais jamais ce que je vais écrire. Hein? Je sais jamais si ce que j'écris va devenir des poèmes ou si ça va devenir un récit. Comme, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai commencé un nouveau. T'es assez malade l'année dernière. Après avoir terminé mon livre « Celle qui ne donne pas son nom », bon, j'ai été assez malade tout l'automne et j'étais plus capable d'écrire. Et tout à coup, l'écriture est revenue. Et je me suis mise à écrire, mais j'ai commencé un texte, pour dire les choses simplement, j'ai commencé un texte au mois de novembre, disons, en tout cas l'automne. Mais aujourd'hui, on est en mars, hein? Eh bien, je pourrais même pas te dire aujourd'hui si ce sera des poèmes ou si c'est un récit. Alors, je peux pas faire dans mon univers personnel d'écriture, je ne fais plus la différence entre le récit et la poésie. C'est le texte qui s'impose à moi et qui vient comme ça. Peut-être que les gens qui, les écrivains qui sont très, structurés en ce sens-là sont capables de dire, bon, là, j'écris des poèmes. Faut dire aussi que là où c'est compliqué pour moi, c'est que j'écris pas très, très peu, des poèmes en vers. Hein? J'écris surtout de la poésie en prose, donc une espèce de poésie narrative. Et j'ai publié peu de poésie en vers. Donc, il y a comme une confusion entre les deux. Je n'arrive pas à faire la distinction. La citation que tu dis, c'est une citation théorique, réflexive, littéraire, bon, presque pédagogique. Mais dans la réalité, je sais pas si ça se pose pas comme ça, étant donné que, comme je te dis, je suis tout le temps entre les deux. Parce que ma question la plus importante, c'est le langage. C'est les mots. Donc, c'est les mots qui s'imposent. Et c'est pas l'inspiration là, c'est pas dans ce sens-là que je, c'est pas du tout dans cette voie-là où je veux aller, mais c'est vraiment, ce sont les mots, et je suis portée par les mots. Et je sais pas, tu vois, quand j'ai fait quelque chose aussi, je faisais pas ça avant, mais je fais ça maintenant depuis quelques années, même je dirais plusieurs années. Je ne relis pas ce que j'écris. C'est-à-dire que j'écris dans des cahiers, j'écris à la main, dans les cahiers, bon, tout ça. Et j'écris, j'écris une page dans un cahier, j'écris la page de gauche. Donc, il me reste à écrire la page de droite. Je ne relis même pas la dernière phrase de la page de gauche. Je mets une feuille sur cette page pour ne plus savoir ce que j'ai écrit. Donc, il y a tout le temps, à chaque fois, je suis devant une page blanche, seule. Il n'y a pas de passé d'écriture. Bon, il n'y a pas de passé d'écriture, faut pas exagérer non plus. Comme là, le texte sur lequel je travaille, qui je ne sais pas ce que c'est, toutes les phrases doivent commencer par nous. Mais c'est tout ce que j'ai comme contrainte. Donc, toutes les phrases doivent commencer par nous. Mais je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai écrit il y a 5 pages, ou il y a 10 pages, ou il y a 15 pages. Là. Et comme je ne relis pas la page précédente, je ne sais même pas s'il y a un fil conducteur entre l'une et l'autre, entre l'un et l'autre texte.
Et le « nous » s'est imposé
Oui, ça s'est imposé carrément, hein? carrément. Je lisais une poète, Marie Huot, qui habite dans le sud de la France, elle habite à Arles, je crois. On avait échangé, je l'ai lu. Et il n'y a absolument pas de « nous » dans son livre. Là. Je ne sais pas pourquoi le « nous » s'est imposé. Et la contrainte s'est imposée comme ça. C'était « ou nous ». Et tout de suite, le titre s'est imposé. Je peux donner le titre, d'ailleurs, parce que c'est à moins que qu'éventuellement, quand il sera prêt, l'éditeur décidera que ce n'est pas un bon titre, mais ce n'est pas un sel, tu vois. Le titre, c'est « fin août, début novembre ». Pourquoi? Ben, c'était sûr que c'était lié à ma situation physique, ma santé, ce qui s'est passé en août jusqu'à fin novembre, là. Mais puis aussi la panne d'écriture. Mais je n'écris pas qu'un livre à la fois. J'ai aussi un autre sel, par exemple, qui s'intitule « Celle qu'il aimait ». Le titre s'est imposé. Et non seulement le titre s'est imposé, mais au départ, dans ce texte-là, je voulais parler de la mort d'un ami que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Et en écrivant ce texte-là, ben, c'est sa compagne qui s'est profilée. Sa compagne est devenue le personnage presque le plus important, ben, pas le plus important, mais équivalent au personnage de cet homme qui est mourant. Et ça se passe dans une seule journée. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à dire à l'avance ce que je vais faire, puisque je me laisse porter, je m'abandonne, si on veut, hein, je m'abandonne à ce qui vient. Je cherche pas à faire du sens, je dirais, hein, pour couper les choses. Je cherche pas à faire du sens. Les choses viennent, je les prends, ou je les prends pas. Mais bon, en général, je les prends. Et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps à écrire. Tu vois, le livre « Celle qui ne donne pas son nom », je l'ai commencé en 2004. Ça m'a pris
20 ans.
Toutes ces années.
Ouais.
Mmh? Ouais.
Même, oui, mais tu as publié entre 2004 et 2024, oui. Tu as publié une dizaine de livres.
Oui, parce que j'ai toujours plusieurs livres en même temps. Et à un moment donné, il arrive que Je ne supporte plus ce que j'écris. Hein? Je supporte plus ce que je suis en train de travailler. Il faut que je le dépose, il faut que je le cache, il faut que je dise... Bon, par exemple, là, justement, le récit, celle qu'il aimait, c'est un texte que j'ai écrit bien avant les livres que j'ai publiés. Bien avant. Mais j'arrive à terminer. Mon éditrice, elle m'a dit, là, Daniel, je veux que tu me l'envoies. Mais j'ai dit, je ne suis pas capable de l'envoyer. Alors, je suis pas capable. Ben, quand, là, je me suis dit, bon, OK, là, il faut que je me décide, là, que je le lise, que je fasse le, encore le travail. Mais c'est tellement long parce que j'écris des récits comme j'écrirais de la poésie. C'est-à-dire que je passe mon temps à chercher les mots pour pas qu'il y ait de répétition, pour pas que le lexique est important, le lexique est lié à, au propos. Ensuite, bon, j'ai tout un travail sur la langue. Et c'est un travail que j'adore faire. C'est pas souffrant pour moi. L'écriture est pas souffrante pour moi. C'est pas quelque chose de souffrant. Bon. Je dirais que ça me vient comme ça. Ça me vient.
Mais justement, j'ai voulu te demander, si tu revenais en arrière, tu as commencé à écrire quand, comment, ouais, et en fait, quand tu as su que tu devais écrire?
En fait, j'ai une drôle d'histoire avec l'écriture parce que j'ai commencé à écrire au primaire, à l'école primaire. C'était une commande, je me rappelle plus trop, là, mais j'ai écrit une pièce de théâtre pour un lapin. Et ma cousine avait fait des petits dessins avec ce qu'on appelle des bonhommes allumettes. Bon, moi, j'étais donc très, très petite. Je devais avoir, quoi, 9 ans, 10 ans. Et après, il y a comme eu une période de latence, si on veut, parce que il y a eu le passage au secondaire. Et j'étais dans un café avec ma grande amie de l'époque, mon amie qui est morte maintenant. Et elle me dit, mais Daniel, parce qu'on lisait Jacques Prévert, on avait un prof de littérature qui nous impressionnait, le prof de latin dont on était plus ou moins amoureuse parce qu'on la trouvait si belle, si brillante, etc. Puis elle m'avait dit, mais Daniel, pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Et la première phrase que j'ai écrite, et je m'en rappellerai toute ma vie, puisque c'est comme le nœud de mon écriture, c'est j'ai écrit « Pourquoi écrire? » Et aujourd'hui, après 40 ans, plus que ça, là, parce que, bon, 40 ans de publication, « Pourquoi écrire? » est une question que je pose, que je me pose tous les jours. Quand je regarde le nombre de livres qui se publient par année, quand je regarde le nombre de livres qui ont été publiés, hein, on va dans une librairie, on va dans une bibliothèque, on est étouffé par le nombre de livres. Eh bien, pourquoi écrire encore aujourd'hui? Je n'ai pas de réponse, évidemment, et je ne peux pas dire « Ah, pour ceci, pour cela, etc. » Mais c'était ma première question. Et à partir du moment où j'ai écrit « Pourquoi écrire? » Ben, je n'ai jamais arrêté. Donc, ma question, je ne sais pas, c'est de travers, comme on dit, là, mais je n'ai jamais arrêté d'écrire après. J'ai toujours écrit mon journal, la poésie, des lettres. J'aime beaucoup la correspondance. J'écris encore des lettres. J'envoie des cartes de Noël, des cartes de vœux. J'aime écrire. Et j'aime écrire, et je raconte une anecdote parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et ça peut intéresser aussi les auditeurs, les éventuels auditeurs qui sont dans les arts, parce que toi, tu as quand même une réflexion sur les arts très importante. Tu as beaucoup d'amis artistes et tu reçois beaucoup d'artistes. Alors, quand j'étais au primaire, encore une fois au primaire, donc c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de... Pour moi, c'est devenu une période de latence. Donc, je suis allée chez les religieuses. J'étais chez les religieuses de la congrégation Notre-Dame. Bon, c'est très snob, très chic, très BCBG, là. On nous dressait pour être des bonnes petites filles qui allaient devenir des bonnes petites femmes. En général, d'hommes qui avaient des professions libérales et qui faisaient de l'argent. Bon. Et donc, fallait tout faire. Il fallait tout apprendre, autant ce qu'on appelle les arts ménagers que la diction. Enfin, on prenait des cours de diction, etc. Et on avait donc des cours d'art plastique. La religieuse nous avait fait écouter Vivaldi, les quatre saisons. Et elle a l'audace, je dis bien l'audace, de nous dire « Dessinez ce que vous voyez en écoutant la musique. » Et moi, je prends ça au premier niveau, là. Alors, je dessine, je me rappelle évidemment pas ce que j'ai dessiné, je dessine ce que j'imagine en entendant la musique. Et là, la religieuse, elle vient à côté de moi, puis elle me dit, Mais non, mais on peut pas imaginer quelque chose comme ça quand on entend la musique. Ça a été comme fini. Je n'ai plus jamais dessiné de ma vie.
Peut-être que c'est grâce à elle que tu écris.
Oui, c'est une façon de voir les choses. Je n'avais pas pensé comme ça. Mais on appelle ça de la résilience. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, peut-être que c'est grâce à elle que j'écris, mais en tout cas, je ne fais pas de dessin. J'ai jamais plus fait de dessin de ma vie. Donc, l'écriture manuscrite, pour moi, je pense que ça joue le rôle de dessin.
Qu'est-ce que le temps fait à l'écriture? Est-ce que tu as l'impression d'écrire entre guillemets plus facilement? Est-ce que les choses à dire semblent plus claires? Ou au contraire?
Ouais, ben non. On voudrait bien, mais non. Non, le temps n'apporte rien. Le temps n'apporte rien. Le temps n'apporte pas plus de sécurité. Le temps n'apporte pas plus de confiance en soi. On est toujours... Enfin, je parle pour moi, évidemment, mais je suis toujours aussi anxieuse. J'ai toujours aussi peur. J'ai toujours aussi peur que mes livres soient mal reçus. Parce que bien sûr, il y a une part d'identification. Je suis mes livres, mais en même temps, je sais très bien que quand le livre est donné et publié, il ne m'appartient plus. Et le lecteur fait ce qu'il veut avec le livre qu'il lit. Hein. Ben, la preuve, c'est que toi, tu lis les livres, moi, je lis des livres, tout le monde, on lit des livres, puis quand on lit un livre, ça devient notre livre. Et puis, disons que le premier jet n'est pas plus terminé qu'autrefois. Ça me prend autant de temps. Parce que j'ai besoin de prendre une pause aussi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je dis que, que le temps aussi me permet de... Le temps me permet aussi de... Évidemment, on change, hein? C'est-à-dire on change, on perçoit les choses différemment, le monde change autour de soi, donc on voit les choses un peu différemment, mais ça me permet aussi de rajouter des choses, mais d'en enlever et d'avoir avec le temps, parce que je ne faisais pas ça avant. Par exemple, quand j'ai terminé un livre, quand j'ai terminé le premier jet, la première version, à la main, tout ça, j'arrive à la fin, là je sais c'est fini, parce qu'à un moment donné, j'ai peur soit de me répéter, soit de dire des choses insignifiantes. Là, l'étape suivante, c'est bien sûr de mettre le livre à l'ordinateur pour qu'il ait une forme moins personnelle, disons. Pas toujours, mais ça m'est arrivé très, très souvent. Le début de mon livre est la fin de mon cahier.
Le début de ce que tu écris à l'ordinateur est la fin de ton cahier?
Ouais, j'écris à l'envers. Je commence, autrement dit, c'est comme un manga. Mon cahier est comme un manga. Je le lis à l'envers. Pendant quelques pages, puis ça peut, je peux écrire le début en plein milieu. Là, c'est comme la construction, c'est comme un bloc de Lego. Là, ça devient de la construction. Et ça, j'ai pas d'autre mot pour dire que c'est extraordinairement trippant de faire ça. Ça, c'est vraiment un plaisir. Ça, c'est vraiment le plaisir du texte. Là. C'est tellement prenant. Je deviens obsédée par ça. Je deviens dans mon texte et je me dis non, ça va aller là, ça va aller là. C'est tout. Et là, c'est de la construction. Mais c'est vraiment de l'ordre de la construction. Et
tu fais un montage
agréable.
Comme un film.
Ouais, un montage. Ça m'est arrivé tout à coup comme ça pour un livre. Le premier livre de cette série des celles qui n'est toujours pas publiée, celle qu'il aimait. C'était la première stratégie, c'est de ne pas relire ce que j'avais écrit. Et quand je l'ai transféré à l'ordinateur, j'ai commencé par la fin. Et je ne sais pas comment ça se fait que ça m'est venu. Je n'ai pas de raison objective. Ça m'est venu comme ça, ça m'est venu naturellement.
Daniel, tu as choisi de vivre pendant ces 30 dernières années entre la France et le Québec. Pourquoi ce choix? Et aussi, qu'est-ce que la France vit de là-bas? Qu'est-ce que le Québec vit d'ici? Est-ce que ton regard change? Ton écriture change?
Je te dirais que c'est encore une fois, c'est un peu, ça devient viscéral. Il faut que je parte. Il faut que je quitte le Québec parce que ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd. Le Québec, en général, me pèse. J'en ai assez. Donc là, je dois partir. Évidemment, ma destination la plus facile est la France, entre autres à cause de la langue. C'est plus facile. Et quand je suis en France, à un moment donné, la France, ça devient trop lourd. Il faut que je m'en aille. Je peux plus supporter, je peux pas supporter la hiérarchie française, je peux pas supporter la bureaucratie, les rapports hommes-femmes, bon, des fois je trouve ça un peu pénible. Il faut que je revienne au Québec où ça devient plus facile, jusqu'à ce que j'ai une nouvelle crise existentielle et qu'ils me disent, bon, il faut que je m'en aille, j'en peux plus d'être ici. Donc, je suis un peu à cheval entre les deux. Et être en France, ça me permet aussi de voir ce qu'est le Québec et comment, dans le fond, je suis profondément une Québécoise et quand je suis en France et quand je suis au Québec, voir la France, ça me permet de voir que je suis profondément pas une Québécoise, que je ne me sens pas une Québécoise. Alors, encore une fois, peut-être que ça vient de que je disais tout à l'heure, ma famille schizophrène, là, avec mon père, le bois, la campagne, et puis la vie à Montréal, cette espèce de partage des eaux, disons. Peut-être que pour moi, ça joue dans ce sens-là où j'ai besoin d'être à l'étranger et j'ai besoin aussi d'être ici. Mais c'est la même chose, j'habite à la campagne, dans un petit village acculturé, je dirais, ou en tout cas d'une autre culture que la mienne. Ce serait plus juste de dire ça comme ça, parce qu'on ne peut pas être sans culture. Et tout à coup, je me dis, bon, il faut que j'aille à Montréal, par exemple. Mais j'ai plutôt envie d'aller en France que d'aller à Montréal, parce que pour moi, Montréal, c'est pas juste... j'ai passé ma vie à Montréal, donc c'est pas... je me sens pas dépaysée ou je me sens pas en questionnement. Donc, pour répondre plus justement à ta question, qu'est-ce que c'est pour moi être en France? Qu'est-ce que c'est de voir le Québec quand tu es en France? Et qu'est-ce que c'est pour moi de voir la France quand je suis ici? C'est un questionnement. C'est un questionnement sur les rapports humains, sur les rapports au monde, sur le rapport à la langue. Hein, ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie, c'est la langue, le rapport que l'on a à la langue. Et en France, vous n'avez pas le même rapport à la langue que nous, on a. Vous avez, par exemple, toute la notion des anglicismes chez vous. C'est pas aussi urgent que chez nous. Nous, on laisse entrer un anglicisme, on oublie le mot en français. C'est ce qui va se passer, à mon avis, aussi en France. Les Français, étant ce qu'ils sont, ils pensent qu'ils vont gagner, là. Mais on ne peut pas gagner contre l'anglais. Hein, l'anglais est plus fort. Donc, tu vois, c'est toutes ces questions-là, mais profondément, c'est la question de la langue. Quand j'entends les petits-enfants parler en France, à chaque fois, je suis émerveillée par le lexique, par le vocabulaire. Alors qu'ici, on a encore du mal avec la langue. On a quand même une population d'analphabètes ici, là, ce que vous appelez des illettrés, ici on les appelle les analphabètes. Évidemment, avec le COVID, ça ne s'est pas amélioré. Le fait de le décrochage scolaire et tout. On peut bien me dire que la langue, ce n'est pas juste l'école, ce n'est pas juste la famille, mais quand même, c'est là où je pourrais répondre à ta question. C'est la langue induit notre rapport au monde. Quand on est en France, on n'a pas le même rapport au monde à cause de la langue. Vous avez eu le siècle des Lumières. On n'a pas eu les Lumières ici. Nous, on a eu l'agriculture, on a eu le défrichage. Donc, on a un autre rapport au monde à cause de la langue.
Tu as dit très beau. J'aimerais juste lire ça parce que j'ai trouvé ça très beau. Tu as dit « La langue est un muscle étrange, doué de sensations qui joue entre la chair et l'écorce, qui goûte, retenue et touche effrontée, qui rentre et sort, et qui a pour tâche de mettre le monde en ordre. »
Oui, ben, je pense que c'est vrai.
Hein? Oui, c'est très vrai.
Ben, c'est un peu l'enjeu de mon dernier livre. Hein? Mon personnage n'a pas de mots pour dire les choses. Bon, je sais que, pour parler plus politique, que ce soit les nazis, les fascistes, peu importe de quel côté ils sont de l'Atlantique, les fascistes et les nazis n'ont pas manqué de mots. Ils savaient très, très bien parler, ils savaient très, très bien manipuler la langue. Ben, c'était pas la même langue. C'était une langue très, très politisée. Mais quand on n'a pas de mots pour dire comment on se sent, comment on fait pour se sentir autrement que dans la violence? Pour moi, c'est ça la langue. Pour moi, c'est ça la langue. C'est d'arriver à... D'abord, on n'a jamais assez de mots. Ça, c'est ce que je sens pour moi. Peut-être que c'est pas la réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui se contentent d'avoir suffisamment de vocabulaire. Mais moi, j'ai pas assez de mots. Et à chaque fois que j'écris, je me dis, mon Dieu, que j'ai du vocabulaire. Mon Dieu, que j'ai pas de vocabulaire. Quand je lis les auteurs, les écrivains, que ce soit des hommes, des femmes, en français, en traduction, j'arrête pas de souligner dans les livres des mots. Parfois, c'est un mot, évidemment que je connais le mot. Pas évidemment, mais parfois je le connais pas, bien sûr. Mais un mot simple, tout à coup, je me rends compte que ce mot-là a disparu de mon vocabulaire. Comment ça se fait que ce mot-là, aussi simple, a disparu de mon vocabulaire? Alors, je le note. Je le note, j'ai une feuille où tous les mots simples qui ont disparu de mon vocabulaire, j'essaie de les ramener dans mes textes pour me rassurer aussi en me disant que j'ai pas perdu les mots. C'est ça pour moi la langue. La langue, c'est ma vie. Je sais pas comment le dire autrement. La langue est son absence. Et donc, autant je dis que l'absence n'est pas un manque, autant je pense ça, mais dans ce cas-ci, c'est pas vrai. Tu vois comment je suis confuse, comment je dis une chose et son contraire en même temps, mais je manque de mots. Et je suis blessée de ça. Et quand je vais en France et que j'entends les gens parler, parfois j'ai envie de pleurer. Parfois, ça m'arrive carrément de pleurer sur la rue. Parce que je me dis, mais comment ça se fait que moi, j'ai pas ce vocabulaire-là? Bon, on peut toujours me dire que j'en ai un autre, mais ça me console pas. Ça me rend triste. Et ça me rend triste de voir comment, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais on est en perte de mots. J'ai l'impression que notre vocabulaire se rétrécit. Et plus notre vocabulaire se rétrécit, moins on est capable de nommer les choses. Donc, plus ça génère de la violence. Peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est quelque chose que je ressens. Fabiola, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps. C'est pas une figure de style. Quand j'entends les gens autour de moi, au Québec, on ne parle pas la même langue. Les Français et les Québécois, on ne parle pas la même langue. Je dis pas que la langue française est plus riche, la langue québécoise est plus pauvre. Je suis pas une linguiste et c'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement par rapport à moi. J'ai l'impression que je n'ai pas de mots pour dire les choses. ...
Tu as été directrice littéraire des éditions de l'Hexagone pendant une dizaine d'années. De la revue Les Écrits pendant 5 ans, tu as enseigné la littérature, tu as fait des conférences à l'université de Sherbrooke, à Montréal, et pour ne citer que ces quelques endroits. Tu as animé des ateliers d'écriture, toi qui n'as pas de mots. Tu es intervenue dans les prisons, tu as écrit des essais sur la féminité, tu as 2 enfants adultes maintenant dont tu t'es occupée seule. C'est quoi être femme et écrire?
Ben, c'est ça. C'est être femme et écrire. Mais dans mon cas, écrire, c'est une question de vie. Hein. C'est pas un passe-temps, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être au monde, c'est une manière d'exister. Hein? Je peux pas imaginer ma vie sans écriture. Je peux pas m'imaginer vivre sans écriture. Je peux pas imaginer vraiment ma vie non plus en dehors des livres. Bon, ça fait partie de mon existence. Par contre, ce que je remarque, peut-être que c'est lié au fait que je vive seule depuis tellement d'années que, bon, je me suis habituée à vivre seule. Cependant, comme je fais un peu une blague là-dessus, quand on vit seul, on fait à manger, on fait la vaisselle et on sort les poubelles. Hein? On fait les 3 choses en même temps. Alors que quand on est avec quelqu'un, on peut partager. Quand je réponds ça, on me dit tout le temps, oui, mais c'est parce que tu as choisi d'être toute seule, tu as choisi de vivre toute seule. Ce que je me suis toujours demandé, parce que j'ai quand même vécu avec des hommes, je pense que les hommes, on dit que les hommes sont jaloux quand une femme a un enfant, surtout quand il est petit, et il est jaloux de l'enfant. Mais je pense qu'une femme qui écrit, je me demande si les hommes ne sont pas aussi jaloux du fait que l'écriture est tellement, enfin dans ma vie, est tellement entier, tellement tout le temps là, que même quand j'écris pas, j'écris encore. Hein? Même quand j'écris pas, j'écris encore. Je vais au cinéma, j'écris. J'écoute de la musique, j'écris. Dans ma tête, c'est toujours en train de se faire de l'écriture. Évidemment, j'écris pas tout ce que j'ai dans ma tête parce que je l'oublie au fur et à mesure. Comme quand tu lis les phrases que j'ai écrites, malheureusement, Fabiola, tu pourrais me dire que c'est quelqu'un d'autre qui les a écrites, je te croirais. Je suis pas sûre que je reconnaîtrais les phrases que j'écris. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être femme et d'écrire? Ben, c'est d'une certaine façon d'avoir choisi la solitude, hein, et d'avoir choisi une très grande liberté. Et il y a un prix à payer pour la liberté, pour écrire, ben, c'est peut-être la solitude. En tout cas, une certaine solitude. Parce que, bon, ou peut-être que les hommes qui écrivent te diraient la même chose, mais je pense qu'on, même encore aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne respecte pas les femmes qui écrivent, ça n'a rien à voir avec le respect. Non, je pense qu'on les respecte, heureusement. Je pense qu'elles ont leur place encore mieux. On ne peut pas penser que les femmes n'aient pas leur place, mais il y a quand même quelque chose de la solitude là-dedans. Est-ce que les hommes vivent ça aussi? Il faudrait leur demander. On est seul avec soi-même quand on écrit. Alors, voici un extrait de celle qui ne donne pas son nom. Tu n'as que la violence, celle de ton père, de ses mots, et le mépris acide de tous les deux que vous avez pour eux. Le ressentiment, une haine inassouvissable qui t'emporte si fort que parfois tu ne sais si c'est elle qui t'entraîne ou si elle t'est essentielle pour vivre. Tu t'étouffes et t'enfonces, noir et ivre, dans un monde redoutable où il n'y a rien, rien d'autre que cette âpreté que tu ne contrôles pas, cette hargne qui te tient à bras le corps, ton corps, une griffe, des dents. Ouvrir la bouche, c'est sortir les couteaux, les haches, c'est ouvrir des veines d'acier liquide, de la lave. Tu es un volcan continuellement en éruption. Ton corps durci en oublie de respirer. Tu suffoques, certaine que c'est ça respirer, haleté, étouffé. Tu ne sais respirer qu'oppressé. Tu ne l'as jamais appris. Espère qu'il est trop tard. Tu te rassures dans ce jugement. Cette idée rejoint d'autres croyances, pire encore, drapées sur mesure, sans existence, une vie par procuration, une vie comme un décollement de rétine. Tu ne t'aimes pas et y tiens. Tes membres s'animent, crient cinglants. Tu exultes de la portée de ta voix. Tu vis pour tuer la vie en toi, hypnotisé par la brutalité, par l'autre, n'importe lequel, à condition qu'il soit implacable et précis. Cela te plaît de penser que le temps n'est pas le même pour tous, que cela se passe en dehors de toi, que vivre, c'est esquiver les coups, connaître en alternance la peur et le désarroi, la désolation en même temps. Cela s'embrouille. Enfoui dans des mondes de glace, encouragé et fier de cette impétuosité, tu erres. Tu mets le feu en toi, brûles l'amour pour laisser triompher ce qui détruit, pour détruire autour de toi. Tu es mettre à mort. Pourtant, tu n'es pas une meurtrière. Tu plantes tes mots dans ta chair comme autant de coups. L'air n'entre plus dans tes poumons. La brûlure te rend vivante. Tu l'alimentes seule, aigrie, heureuse. Devant ce saccage, tu ne bronches pas. Reste exaspérée, froide, hagarde d'une certaine façon. Pas hautaine ni dédaigneuse. Fière d'avoir connu le mépris. Au bord du vide, tu te penches, les lèvres serrées, les bras croisés, les jambes écartées. Tu rêves de l'affront n'importe lequel. Quand devant toi tout s'effondre, acariâtre, tu exultes, c'est inscrit en toi atavique. Position, attaque, c'est écrit. Ta salive, ta morve et tes humeurs éclaboussent la main qui se tend assujettie à ta barbarie. Tu affiches ce qui ne se présente pas, ce qui ne se raconte pas, puisqu'il te faut aller au bord du vide que tu dois embrasser jusqu'à la néantisation, jusqu'à ton propre anéantissement. Au centre de la terre et de ses feux, tu te crèves les yeux, aveuglé, tu t'es ce qui est séparé en toi. Sourde, tu traverses les déserts et les vallées, les eaux glacées du Saint-Laurent. Tu n'échappes pas à la dérive des aubes, ni à cette langue arrachée aux entrailles. Tu es rayonnante quand un regard te vomit. Tu n'existes pas au présent.
Nous sommes arrivés à la fin de ce premier entretien. La deuxième partie sera consacrée à tes questionnements sur la féminité ou sur ce qu'on appelle la féminité, sur ce qui fait l'identité, sur le langage, qui sont tes principales questions. Et comme à chaque fois, il y aura la question de la responsabilité et, si tu veux bien, des formes utiles, en continuant de lire des extraits de tes livres. Merci, Daniel, pour ta présence.
Merci. Merci à toi, Fabiola.